Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce sont des énigmes et mystères que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1, dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire, vous le savez. Et aujourd'hui, Franck Ferrand tente de résoudre une affaire de meurtre.
Bonjour à tous. On a pris l'habitude de l'appeler l'énigme de Saint-Leu, un grand mystère policier en vérité, une affaire de chambre close autour de la mort du dernier prince de Condé à l'été 1830. Alors suicide ou assassinat, c'est ce que nous allons tenter de savoir dans l'heure qui vient. L'héritier de ce prince de Condé était le tout jeune duc d'Aumale, un fils du roi Louis-Philippe qui venait de monter sur le trône. C'est l'origine du domaine et de la collection du duc d'Aumale qui seront plus tard légués à l'Institut de France, le château, les jardins, les fabuleuses collections de Chantilly dont nous parlons de temps en temps à ce micro et dont nous allons avoir l'occasion de découvrir aujourd'hui les merveilles.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ce matin du 27 août 1830, dans le beau château de Saint-Leu, on est tout près de Chantilly, les pendules, bien réglées ces pendules, sonnent 8 coups. Le sieur Lecomte, valet du prince de Condé, essaie d'entrer dans la chambre de son maître comme il le fait chaque matin, mais, et ça c'est tout à fait inhabituel, la porte a été verrouillée de l'intérieur. Le valet est tout de même assez étonné, il frappe, il insiste, sans succès. Alors là, il s'inquiète, il prévient le médecin de la maison, le docteur Bonny, qui, après quelques essais infructueux de son côté, décide de faire enfoncer la porte. Et là, stupeur, horreur, le prince de Condé, 74 ans, est retrouvé pendu à l'espagnolette de la fenêtre, pendu par un double mouchoir, alors que, fait notable, ses pieds touchent parfaitement le sol. Je précise que les deux mouchoirs sont noués entre eux par un nœud de tisserand. Or, le prince, à la suite d'une blessure de guerre, n'avait plus de doigts à la main droite. Il avait également le bras gauche invalide. On savait que le dernier des Condés, qui avait été très choqué par la révolution des Trois Glorieuses qui s'est produite là quelques jours plus tôt, on savait que ce prince était en train de faire ses bagages pour s'en aller rejoindre en exil le vieux roi Charles X. Mais de là à se suicider, lui qui disait encore 12 jours plus tôt « Seul un lâche se donne lui-même la mort », vous avouerez que ça sème le trouble. Pourtant, pas de doute, la porte de la chambre était bien verrouillée de l'intérieur. Alors, les enquêteurs arrivent sur place, bien entendu, ils mettent de côté l'énigme de la chambre close et ils essaient de voir ce qui a pu se passer. Il faut vous dire que ces enquêteurs ont été dépêchés par le tout nouveau roi, qui est le roi des Français, Louis-Philippe. Et ces enquêteurs, et spéciaux si je puis dire, concluent au caractère hautement improbable d'un suicide. « Je dois dire, écrit le chef de la police particulière, que la mort n'a pas l'air du tout d'avoir été un suicide. Il est important qu'on ne puisse accuser personne et que le testament ne vienne pas faire accueillir des soupçons. » Vous voyez que d'emblée, les enquêteurs sont placés dans une situation qui est un véritable paradoxe. Peu importe, l'avis des premiers enquêteurs est négligé et le tribunal de Pontoise conclut qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. Vous imaginez aussitôt le scandale. Lors des obsèques, l'abbé de Saint-Leu a le courage de clamer en public « Le prince est innocent de sa mort devant Dieu ». Il ne cessera de le dire et de le répéter, cet abbé. D'ailleurs, c'est lui qui a dit que quelques jours avant, le prince lui avait fait cette fameuse confession, lui avait dit « Seul un lâche, etc. se donne lui-même la mort ». On commence donc à murmurer. Et pour tout vous dire, dans le village et aux alentours et dans la famille surtout, on se met même à gronder. Le plus proche parent du défunt, Louis de Rohan, dépose au parquet de Pontoise une demande de supplément d'instruction. Et c'est en réponse à cette démarche, et c'est pour calmer l'opinion, que l'on nomme tout de même un juge d'instruction, M. de la Huproie. M. de la Huproie est un magistrat intègre, c'est un très bon professionnel. Du reste, son enquête sur place va durer 4 mois. Vous imaginez bien qu'en 4 mois, il n'a laissé aucun aspect de côté. C'est très important, il faut vous dire, hein, cette mort, ce n'est pas n'importe qui vient de disparaître. C'est le dernier prince de Condé, c'est un très grand personnage et c'est surtout un immense propriétaire. Nous allons y venir dans un instant. Or, la Huproie comprend très vite, au vu des éléments matériels et psychologiques dont il dispose, il comprend que la thèse du suicide est quand même peu probable. Alors il se met à chercher des suspects. Et il en trouve, il trouve un suspect magnifique en la personne de la compagne du défunt, la baronne de Feuchères. Qui est-elle, cette baronne de Feuchères? Eh bien, le prince l'avait rencontrée à Londres, où il était émigré pendant la Révolution et l'Empire. Il l'avait rencontrée à Londres en 1811. Elle avait 20 ans à l'époque, vous imaginez. Elle avait tout simplement 32 ans de moins que lui. Elle s'appelle Sophie Dawes, c'est son vrai nom, et nous allons venir tout à l'heure sur elle. Nous détaillerons sa biographie en compagnie de celui qui a écrit toute sa vie, en compagnie de Pierre Cornu-Gentil. Ce qu'il faut vous dire, c'est que pour elle, évidemment, devenir la compagne du prince de Condé, c'était faire une affaire extraordinaire. La fortune de cet homme est immense. 80 millions de francs or, et encore, c'est une estimation de retour d'exil. Il est propriétaire du célèbre palais Bourbon, où on installera plus tard la Chambre des députés, propriétaire de toutes sortes de châteaux, dont celui de Chantilly. Pour vous donner une idée, le personnel domestique du prince de Bourbon sous la Restauration, c'est pas moins de 650 personnes.
Ça tout vous donne, de même. Vous
voyez le genre de fortune. Or, je vous l'ai dit, pour ce prince de Bourbon, pour ce prince de Condé, donc duc de Bourbon, la révolution de 1830 a été un choc. Il faut vous dire qu'il est proche, il est resté proche du roi Charles X, qui a été chassé par la révolution des Trois Glorieuses. Et du reste, il décide de suivre Charles X dans l'exil. Seulement, ça ne fait pas l'affaire de Louis-Philippe, qui littéralement lui faisait la cour depuis longtemps, et la reine Amélie aussi, l'épouse de Louis-Philippe. Le vieux prince ne veut rien entendre. Il n'était pas question pour lui d'approuver ce nouveau régime du roi citoyen, cette espèce de monarchie constitutionnelle qui n'était pas du tout dans ses principes. Louis-Philippe lui-même avait écrit à la baronne de Feuchères « Empêchez, madame, empêchez à tout prix le départ du duc de Bourbon ». Est-ce que la malheureuse a suivi de trop près le conseil du tout nouveau roi? C'est une possibilité.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes précisément sur Europe 1, au cœur de l'énigme de Saint-Leu, Franck.
Alors ce que le magistrat instructeur, ce brave monsieur de la Huproie, n'a pas mesuré tout de suite, c'est le degré d'implication de Louis-Philippe en personne dans cette affaire. Pour le comprendre, il a fallu attendre qu'on retrouve aux Tuileries en 1848, après la révolution de février 48, un certain nombre d'éléments. Dès les années 27-28, la maîtresse du prince, cette baronne de Feuchères, avait cherché à consolider sa position d'héritière. Or, elle était même très maligne, cette baronne. Elle savait très bien qu'à la mort du duc de Bourbon, elle allait hériter certes d'une fortune considérable, mais que les Rohan, qui s'estimeraient spoliés, attaqueraient les dispositions testamentaires et qu'elle ne pèserait pas lourd face à ce genre d'adversaire. Il lui fallait donc s'allier à des gens puissants et pourquoi pas au duc d'Orléans, qui à l'époque se trouvait être le cousin du roi Charles X. Comme dans un rêve, les Orléans ont mordu à l'hameçon. La duchesse Marie, qui n'était pas encore reine, Marie-Amélie, va recevoir la baronne de Feuchères au palais royal. Mieux, Louis-Philippe obtient de Charles X qu'elle soit reçue aux Tuileries. C'est une alliance objective qui s'installe. La baronne va œuvrer pour que le vieux prince institue son héritier, un des enfants de Louis-Philippe. Et en échange, le duc d'Orléans apportera son soutien à la baronne au moment du procès en succession. Voici par exemple ce que lui écrivait Marie-Amélie en janvier 1830. « Vous trouverez en nous, dans tous les temps et toutes les circonstances, pour vous et pour tous les vôtres, cet appui que vous voulez bien me demander et dont la reconnaissance d'une mère doit vous être un sûr garant. Qu'importe à la baronne les réticences, pour ne pas dire la répugnance de son vieil amant envers les Orléans. Pendant des mois, à force de prières, de minauderies, de caprices de toutes sortes, elle veut lui faire signer ce testament en faveur faveur du petit duc d'Aumale, qui donc est l'un des fils de Louis-Philippe et de Marie-Amélie. Et le pauvre vieillard fait pitié, il pleure tous les soirs. « Ah, si je ne consens point à cette vilenie, dira-t-il à son abbé et confesseur, elle menace de partir. » Et pour lui, ça c'est insurmontable. Vous imaginez ce que c'est que ce vieux monsieur pour l'époque, 74 ans en 1830, c'est beaucoup évidemment. Et donc il va finir par céder. Sauf qu'avec la révolution de 1830, d'un seul coup, tout change. Paradoxalement, le prince retrouve un but. Il va pouvoir rejoindre son roi Charles X en exil. Et il a dès lors une ambition également. C'est de changer d'héritier. C'est de tester en faveur du duc de Bordeaux, du futur Henri V, le comte de Chambord. D'un seul coup, on comprend beaucoup mieux l'inquiétude de Louis-Philippe. Rappelez-vous les mots du roi citoyen. « Empêchez, madame, empêchez à tout prix le départ du prince. » Sur place, à Saint-Leu, M. de la Huproie est en train de boucler son enquête. Seulement, il bute sur un dernier mystère, celui du verrou fermé. Et en fait, c'est un inspecteur des forêts, de Saint-Leu, de Chantilly, qui va résoudre l'énigme. Il lui montre qu'avec un lacet, en passant le lacet dans la fente de la porte et dans le loquet du verrou, il est possible de l'extérieur de fermer le verrou de la porte. Et une fois que vous avez fermé, vous tirez sur un des deux bouts du lacet et vous retirez l'ensemble du dispositif. Là, le visage de Monsieur de la Huproie s'illumine. Cette fois, tout se tient. Voilà ce qui s'est passé ce soir du 26 août 1830. Le vieux prince s'est couché. Dans la nuit, Madame de Feuchère et son amant, en l'occurrence un sous-officier de gendarmerie du château, sont entrés dans la chambre. D'ailleurs, le comte, le valet dont je vous parlais, les a surpris dans le couloir quelque temps après. Il ne le confessera que plus tard, ça, seulement en 1834. Ils étranglent le prince dans son lit, ils le traînent jusqu'à la fenêtre, ils le pendent à l'espagnolette, et les voilà qui ressortent et qui crochettent le verrou de l'extérieur. Cette fois, Monsieur de la Huproie peut conclure au renvoi de Madame de Feuchère et de son complice en cour d'assises. C'est ce qu'il s'apprête à faire quand le 3 juin au soir, il est en train de souper avec sa femme et sa fille, on annonce le procureur général. Vous imaginez la cuisinière qui sert à table et qui annonce le procureur général, grand personnage. « Votre rapport, monsieur, dit le procureur, ne verra pas le jour. »« Et pourquoi ?» demande la Huproie. « Des raisons d'État s'y opposent. Comment ? On subordonnerait à la politique l'action de la justice. Il s'agit bien de cela. » « Il y va de l'honneur de la maison d'Orléans, lui répond-on. » Et un marché est dès lors proposé, un poste de juge titulaire au tribunal de la Seine pour le gendre de la Huproie contre sa mise à la retraite d'office. Oh, monsieur de la Huproie, je vous l'ai dit, est un homme intègre. Seulement, disons-le aussi, il ne se sent pas l'âme d'un héros. Deux jours plus tard, il sera remplacé par le président de la chambre d'accusation en personne qui se hâte de conclure au suicide du dernier prince de Condé. Le duc d'Aumale pourra donc hériter l'immense fortune dont le domaine de Chantilly, qu'un jour il aura du moins l'élégance de céder à l'Institut de France.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à l'énigme de Saint-Leu. Nous vous retrouvons pour en parler avec votre invité, Franck.
Et oui, Pierre Cornu-Gentille, qui revient, j'allais dire, nous voir, après être venu parler l'autre jour de l'affaire Stavisky. Pierre Cornu-Gentille est non seulement avocat, mais historien, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont celui sur l'affaire Prince, qui nous intéressait l'autre jour. Il est également le biographe de Madame Roland, ce qui nous donne des idées pour une émission future. Personnage fascinant, Madame Roland. Son mari aussi, d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, il vient pour cette biographie de la baronne de Feuchère parue chez Perrin en avril 2000. La baronne de Feuchère, la mort mystérieuse du duc de Bourbon. Parce qu'effectivement, il est très difficile de parler de ce personnage sans évoquer l'énigme de Saint-Leu. Je m'empresse de dire d'emblée, Pierre Cornu-Gentille, et nous y reviendrons par la suite, que vous n'êtes pas d'accord avec la thèse que je viens de présenter. Pour vous, le dernier prince de Condé s'est bel et bien suicidé.
Non. Mon hypothèse, c'est qu'il n'a pas été assassiné, qu'il ne s'est pas suicidé, mais c'est qu'il a été victime d'un accident particulière.
C'est-à-dire qu'en fait, un accident dans des jeux érotiques, voilà, disons-le. Exactement. Alors on va y revenir tout à l'heure. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur la baronne de Feuchère elle-même.
Oui,
Donc ce personnage, au départ, c'est une dame galante, hein, que...
Oui. En tout cas, c'est une aventurière balsacienne qui est née dans l'île de Wight, fille d'un marin pêcheur. Elle est née à une date imprécise parce que son état civil est lui-même très imprécis, probablement entre 1790 et 1793. Et elle a rencontré le futur prince de Condé, le duc de Bourbon, émigré à Londres dans les années 95 et suivantes. Certains disent qu'elle était effectivement une courtisane, une prostituée. D'autres disent qu'elle était simplement femme de ménage dans une maison de rendez-vous. Il y a d'autres hypothèses qui circulent. Mais bref, en tout cas, elle venait de très bas et elle a été très vite, alors qu'elle avait 20 ans, la maîtresse de ce monsieur de 56 ans qui était le duc de Bourbon, qui était un homme qui était très attiré par les femmes. Et quand je dis les femmes, il ne faut pas y voir un romantique. C'est un homme qui avait des pulsions sexuelles qu'il s'efforçait de satisfaire le plus souvent possible. C'était un jouisseur invétéré et c'était l'objet principal de sa vie avec la chasse.
En quoi il était assez bien Bourbon, finalement. Il faut dire que ce prince de Condé, dernier prince de Condé, duc de Bourbon, avait quand même, disons-le, joué un rôle important dans l'émigration. Il était, après tout, le cousin du dernier roi, Louis XVI, et il sera le cousin de ses deux frères, par définition, qui monteront sur le trône, Louis XVIII et Charles X. Il rentre d'émigration parmi les premiers.
Oui, alors en fait, c'est surtout l'armée des émigrés, comme vous le savez, était dirigée en réalité, commandée par son père, le prince de Condé, qui était lui, sur le plan du caractère et du tempérament, plus dans la lignée des grands Condé.
Et lui-même avait un fils, le duc d'Enghien, qui sera le fameux duc d'Enghien, assassiné
par... Donc le prince de Condé, voilà, chef des émigrés, avait un fils qui était le duc de Bourbon,
qui
n'avait pas les qualités guerrières de ni le courage de son père. Je vous ai décrit la personnalité très sommairement tout à l'heure, et qui donc, dès qu'il a pu prendre la tangente et quitter l'armée des émigrés pour l'Angleterre, il l'a fait, et il avait effectivement un seul fils, qui était le duc d'Enghien, qui a été exécuté sur ordre de Napoléon dans les conditions que vous savez.
Dans les fossés de Vincennes. En l'occurrence, le prince de Condé rentre en France, il récupère l'essentiel de ses biens, c'est-à-dire en l'occurrence un domaine et notamment des forêts
invraisemblables. Les deux plus grosses fortunes de France sont celles du duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, et celle du prince de Condé.
Pour la baronne de Feuchère, évidemment...
Il y a là un personnage qui est intéressant de continuer à fréquenter. Et donc, il y a toute une intrigue. Il ne peut l'avoir auprès de lui que si elle a un rôle un peu officiel. Il n'est pas question qu'il ait officiellement une maîtresse. Par conséquent, il lui fait épouser un colonel qui s'appelle le colonel de Feuchère, dont il
fait... son nom, baronne de Feuchère.
Voilà, qu'on fait baron. Elle peut ainsi habiter avec lui, car le duc de Bourbon a fait du colonel de Feuchère son aide de camp, ce qui facilite effectivement la cohabitation.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sera discret et complaisant.
Pendant tout un temps. Et puis quand ça l'arrange plus, c'est lui au contraire qui est à l'origine du scandale qui fera qu'elle ne sera plus reçue à la cour par Charles X compte tenu du scandale qui est révélé. En réalité, tout le monde le sait, il y a beaucoup d'hypocrisie. Mais le jour où c'est crié haut et fort, elle n'est plus reçue à la cour parce qu'il apparaît qu'elle est la maîtresse du duc de Bourbon et qu'elle est d'une origine tout à fait douteuse.
Alors comment faire pour rentrer en grâce? Est-ce que la famille d'Orléans pourrait l'aider? C'est ce que nous allons voir.
Un extrait sur Europe 1 de la symphonie numéro 3 de Schubert, Franck.
Alors, il y a un personnage qui fait son apparition à ce moment-là dans les liens entre la baronne de Feuchère et la famille d'Orléans, le duc d'Orléans qui va bientôt devenir le roi Louis-Philippe. Et évidemment, c'est Talleyrand. Je dis évidemment parce qu'il est là toujours sur tous les sujets à cette époque. C'est incroyable. Il est la plaque tournante, Talleyrand.
Oui. Talleyrand, à l'époque, traverse une espèce de traversée du désert. Il a 71 ans en 1825. Il a eu, vous le savez, toutes les fonctions éminentes qui ont été les siennes. Il a été écarté par Louis XVIII un peu vite après la seconde restauration. Et depuis, il s'ennuie. Il est grand chambellan, ce qui lui vaut toutes sortes d'honneurs. Mais lui, ce qu'il aime, c'est l'influence et le pouvoir. Et il en est privé depuis une dizaine d'années. Et en même temps, il y a quelque chose qu'il taraude, c'est la responsabilité qui est la sienne dans, précisément, l'exécution du duc duc d'Enghien. Et comme c'est pas un homme violent et que c'est probablement la seule fois de sa vie qu'il a été probablement plus ou moins associé à un assassinat, il veut faire oublier cette tâche aux yeux de l'histoire et il comprend que le mieux, ça serait de se réconcilier avec le père de la victime. Le père de la victime, c'est le prince de Condé. Et comment approcher le prince de Condé qui n'est pas immédiatement favorable à une rencontre avec Talleyrand, si ce n'est en rencontrant la baronne de Feuchères. Il s'arrange pour la rencontrer, ils s'entendent tous les deux très bien parce que
ils sont faits pour s'entendre,
ils aiment l'argent tous les deux, ils sont très intelligents tous les deux, très ambitieux tous les deux, ils savent ce que c'est que l'exercice de l'influence et du pouvoir, et elle réussit à convaincre le prince de Condé de serrer la main de Talleyrand, qui a fait savoir par l'intermédiaire de la baronne de Feuchères qu'on l'a calomnié au sujet de l'affaire du duc d'Orin, car en réalité c'est lui qui est l'auteur d'une lettre dont on ne savait pas de qui elle émanait, et en réalité elle émane sûrement pas de lui, qui aurait averti des risques qu'il courait le duc d'Enghien, qui n'en aurait pas tenu compte. Et il dit: quel dommage, j'ai voulu sauver votre fils, mais malheureusement il n'a pas tenu compte de mon avertissement.
Et donc c'est par Talleyrand que les rapports vont se resserrer avec la maison d'Orléans. Si vous voulez bien, Pierre Cornu-Gentil, on y vient dans un instant.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Nous nous intéressons aujourd'hui à l'énigme de Saint-Leu, toujours en compagnie de l'avocat et historien Pierre Cornu-Gentil, Franck.
Alors pour ceux qui arriveraient en cours, et puis pour résumer un peu l'histoire, nous avons vu ce très grand seigneur, une des deux plus grandes fortunes de France, avec celle du duc d'Orléans, en l'occurrence le dernier prince de Condé, on l'appelle le duc de Bourbon. Il rentre en France donc après la Révolution et l'Empire, et il rentre avec une compagne qu'il va faire épouser à son aide de camp, monsieur de Feuchères, qu'on a fait baron pour la circonstance, et donc qui est maintenant baronne de Feuchères. Sauf que cette dame, évidemment, n'a pas une excellente réputation et qu'elle a besoin de bonnes relations à la cour. Et celui qui va s'empresser de lui en donner parce qu'il est en train de vouloir se rapprocher du prince de Condé, c'est le fameux Talleyrand. Donc, madame de Feuchères, par Talleyrand, va rentrer en grâce, en quelque sorte, Pierre Cornu-Gentil.
Oui, alors les choses vont se passer de la manière suivante. Talleyrand, on l'a déjà dit, c'est d'abord un grand politique. Il s'ennuie puisqu'il est écarté du pouvoir depuis une dizaine d'années. Il a réussi, grâce à la baronne de Feuchères, à se réconcilier avec le père du duc d'Enghien, donc il a réglé déjà un problème.
Et tout va mieux
pour
lui.
Et il sait qu'il n'a plus rien à espérer des ultras.
Et les ultras, c'est-à-dire la droite catholique qui soutient Charles X.
Charles X, qui est le roi régnant à ce moment-là. On est donc là en 1827. Et en revanche, ce qu'il subodore, ce qu'il a compris, c'est que probablement les Charles X et les Bourbons de la branche aînée courent à leur perte, parce qu'effectivement ils
sont... Donc il est temps de changer de bateau.
Et que le recours sera probablement le duc d'Orléans, qui est un habile et très intelligent politique et qui pourra faire la liaison entre la gauche républicaine et la droite libérale, en quelque sorte, à laquelle appartient Talleyrand.
C'est exactement ce qui va se passer.
Donc, à l'été 1830. Mais lui, il le devine, il le voit venir en 1827.
Voilà.
Et donc, il faut qu'il soit en situation de profiter de celui dont il pense qu'il va pouvoir l'aider à monter sur le trône. Et il sait que une des ambitions non politiques de Louis-Philippe, du duc d'Orléans, du futur Louis-Philippe, c'est l'établissement de ses enfants, la consolidation de son immense fortune, et que notamment il a déjà fait savoir à plusieurs reprises à son cousin le duc de Bourbon qu'il serait bien que, n'ayant plus d'enfants, il désigne comme héritier le cinquième de ses fils, c'est-à-dire le duc d'Aumale.
Qui a 7 ans, même pas à l'époque.
Oui, il a 7 ans, je crois, 5, 6 ou 7 ans. Et Talleyrand, ayant cette information, va trouver le duc et la duchesse d'Orléans et leur dit: mais moi je suis au mieux avec le duc de Bourbon
via la
baronne de Feuchères. Il faut que vous rencontriez cette brave femme et elle va sûrement trouver le moyen de vous aider.
Alors elle est éblouie, la baronne de Feuchères, parce qu'elle est reçue par la duchesse d'Orléans au palais royal.
Et elle pose ses conditions, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Ça dit que moi je fais en sorte que le prince de Condé fasse un testament en faveur du duc d'Aumale, à condition que je sois réintroduite à la cour par votre intervention auprès de Charles X.
Et elle se met en situation, cette baronne de Feuchères, dans le cas où la famille du prince de Condé, après sa mort, attaquerait la succession, d'avoir des soutiens de poids, bien entendu, parce qu'il faut qu'elle protège son futur et potentiel héritage.
Oui, c'est clair, mais je ne pense pas que ce soit la motivation, parce que c'est la motivation majeure à ce moment-là, c'est d'être réintroduite.
Rentrer en grâce.
Elle n'a pas digéré le fait d'être écartée de la cour.
Alors ça va marcher, cette affaire.
Et ça va marcher. Alors elle va s'employer à convaincre le vieux prince, qui est réticent. Non, pas du tout, comme on l'a dit, pour des raisons politiques. Parce que c'est vrai que les opinions du prince de Condé et celles du duc d'Orléans sont très éloignées. Quand on connaît le passé de Louis-Philippe et le passé du duc Bourbon, ils étaient pendant la Révolution dans deux camps opposés, en réalité. Et puis, Philippe Égalité a voté la mort de Louis XVI, qui était quelque chose d'insupportable pour le duc Bourbon. Mais curieusement, c'est pas ces considérations-là qui ont dominé. Ce qui dominait, c'est qu'ils étaient tous les deux des cadets. Et les cadets, qu'il s'agisse des Condés ou qu'il s'agisse des Orléans, ont toujours été humiliés par la branche aînée. Et en dépit des divergences d'opinion politique, ça les rapprochait. De sorte que, contrairement à ce qu'ont dit les ultras, il n'était pas anormal qu'ils finissent par accepter de désigner comme héritier le duc d'Aumale.
Mais quand même, à plusieurs témoins, le prince de Condé a dit qu'il ne signait que pour avoir la paix, parce que la baronne de Feuchères lui menait une vie impossible, etc.
Il l'a pas dit autant que certains l'ont répété. Et ce qui, surtout, lui était désagréable, c'était de signer un testament. C'est-à-dire qu'il avait en réalité peur de la mort.
C'est son côté jouisseur.
Voilà. Et donc, ça lui était insupportable. Mais en réalité, il a toujours entretenu, pendant cette période-là, indépendamment, d'excellents rapports avec le futur Louis-Philippe.
Alors, changement incroyable dans la politique. Donc, changement qui avait été anticipé, comme d'habitude, par Talleyrand. En juillet 1830, Paris se soulève. Ce sont les trois journées de révolution qu'on va appeler les Trois Glorieuses. Le roi Charles X est chassé du royaume. Enfin, il préfère prendre la tangente, si je puis dire. Et alors que beaucoup croient que la République va être proclamée, en fait, c'est le cousin du roi, le duc d'Orléans, qui monte sur le trône et qui devient Louis-Philippe Ier, c'est ce dont on parlait l'autre jour. Ce nouveau roi constitutionnel, Louis-Philippe Ier, roi des Français, évidemment, ne veut pas du tout voir partir le prince de Condé. Or, on dit que Condé avait fait ses malles et qu'il était prêt à rejoindre Charles X dans son exil.
Oui, ce qui est vrai, c'est que le Condé a eu très peur de la Révolution de juillet, comme il avait peur, par définition, de toute révolution. Et puis, il avait des souvenirs, oui, particulièrement cuisants, ce qui était arrivé à sa famille. De sorte que c'est vrai qu'il n'a pas vu arriver la Révolution d'un œil tout à fait serein. En même temps, dès que le roi des Français a été installé sur son trône, il s'est précipité pour l'écrire et le féliciter. Autrement dit, c'est vrai qu'il y a eu une tentation d'émigration, mais elle a été relativement brève. Il y avait toujours un peu d'inquiétude parce que la situation n'a pas été politiquement stabilisée très vite, mais il était assez satisfait de savoir que c'était pas la République, c'était une monarchie constitutionnelle et c'était son cousin qui était le roi. Et donc, cette idée selon laquelle il avait pris la décision de partir et que la baronne de Feuchères aurait voulu l'en empêcher ne repose sur rien de sérieux. En réalité, on n'a pas de trace de ce qu'il est vraiment organisé à départ, surtout que...
On n'a pas les preuves matérielles.
Non, on n'a rien du tout. Il avait dit qu'il faut qu'il y ait toujours des équipages prêts, mais ça, il l'a dit dès le début de la Révolution parce qu'il craignait effectivement des troubles et il voulait être en situation d'échapper à une éventuelle révolution
locale. C'est ce que dira Lecomte, hein, dans les deux dépositions.
Oui, voilà.
Il dit
mais
c'est tout. Prince insistait
mais
pour
c'est
que son
tout,
équipage
c'est tout.
Prêt.
Et l'idée, justement, il était tellement jouisseur, tellement attaché à ses habitudes, tellement attaché à sa maîtresse aussi, pour différentes raisons, que l'idée qu'il serait parti sans elle en émigration n'est en réalité psychologiquement pas très vraisemblable, compte tenu de ce qui s'était déjà écoulé un mois depuis la Révolution et qu'il ne manifestait plus d'inquiétude.
Et l'idée selon laquelle il aurait pu changer de légataire universel et abandonner le duc d'Aumale au profit du petit-fils de Charles X,
c'est une hypothèse, mais qui ne repose encore sur rien.
Voilà.
Il n'y a pas un document, il n'y a pas une lettre, il n'y a pas un témoignage sérieux qui confirme qu'il était dans cet état d'esprit-là.
Le magistrat instructeur, monsieur de la Huproie, dont je parlais, est convaincu, lui, de tout ce que nous disons là. C'est-à-dire qu'il est convaincu qu'on a tout fait pour empêcher physiquement le prince de partir.
Voilà, alors c'est vrai, effectivement, dans un premier temps, la baronne de Feuchères, quand l'enquête démarre, se tourne vers Louis-Philippe et lui dit « faites quelque chose, empêchez ça ». Il bouge, il bronche pas. Les amis des Rohan et Méné, qui sont dans l'autre camp, qui ont déposé la plainte,
qui veulent récupérer l'héritage,
interviennent auprès de lui en disant ne soutenez pas cette femme parce que en réalité il propose une transaction entre le duc d'Aumale et eux pour se partager la succession et faire condamner la baronne de Feuchères. Et lui ne bronche pas, il laisse faire et il dit en gros que la justice suive son cours. Et c'est vrai. Vous l'avez répété tout à l'heure, que quand il s'aperçoit que le conseiller de la chambre d'accusation, le conseiller de la Huproie, instruit uniquement à charge contre la baronne de Feuchères, il comprend que ça risque de mal tourner, parce que c'est vrai que si elle est poursuivie et condamnée...
Dans une période extrêmement instable pour lui, c'est le tout début du régime.
On va effectivement mettre sur la place publique dans un procès le fait qu'elle avait conclu un pacte avec lui dans les conditions que nous avons rappelées tout à l'heure.
Et donc c'est là que la raison d'État s'abat sur l'enquête.
La raison d'État l'emporte, mais à mon avis... pour de mauvaises raisons.
C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai présenté tout à l'heure un magistrat, un juge d'instruction, si l'on peut l'appeler ainsi, oui. comme vous dites, un conseiller à la chambre d'accusation. Je l'ai présenté comme un type extrêmement malin et intelligent et droit et qui aurait été arrêté dans ses bonnes volontés par la raison d'État. Et ce que vous nous dites, c'est que c'était plutôt quelqu'un qui avait des préjugés, voilà. qui instruisait mal et qui aurait été remis dans le droit chemin par la raison d'État. Ça, voilà. chacun s'en
c'est, oui. c'est effectivement, vous savez, les juges sont indépendants et ils doivent l'être du pouvoir politique. Là, ils n'ont pas été, je vous le concède. Ce que vous avez décrit tout à l'heure est juste. La chambre d'accusation a finalement blanchi la baronne de Feuchères, un peu poussée par le pouvoir politique dans cette direction. Mais les juges doivent aussi être indépendants de leurs préjugés. Alors moi, je considère, quand on voit le dossier, quand on voit comment il a instruit, que le conseiller Lahupran, en fait, était prisonnier de ses préjugés. Il était un partisan des ultras et il voulait la condamnation de la baronne de Feuchères et il voulait probablement causer du tort à Louis-Philippe.
Sans entrer peut-être dans tous les détails, mais que se serait-il passé ? Donc, pourquoi ce vieux prince de Condé se serait-il pendu à l'espagnolette
Non, justement, je pense que vous avez très bien tout à l'heure exposé les raisons pour lesquelles le suicide paraît invraisemblable et improbable. Pour autant, le crime paraît pratiquement tout aussi invraisemblable et improbable. D'abord pour les raisons psychologiques que je vous exposais et morales que je vous expliquais tout à l'heure. Il n'y avait pas de raison qu'on redoute qu'il s'en aille, ça c'est faux. Ensuite, parce que matériellement, c'était très difficile à organiser. Il lui fallait un complice. On a fini, il y avait 3 ou 4 complices possibles, mais ceux qui étaient les plus vraisemblables n'étaient pas à Saint-Leu cette nuit-là. Ils avaient des alibis indiscutables. De sorte qu'on s'est rabattu sur l'aumônier de la Bochetière et sur le
gendarme.
Et l'histoire du gendarme, elle repose sur rien du tout. Ça, c'est une fable complète. Il n'y a pas le moindre début d'un témoignage là-dessus. En revanche, ce qui n'a pas été dit assez souvent et ce qui ressort des archives, c'est que les médecins experts qui étaient venus constater la situation le jour de la découverte du cadavre n'avaient pas osé, et tous les témoins n'avaient pas osé, faire figurer dans le rapport ou faire figurer dans les expertises une constatation qu'ils avaient faite tous, c'était que le cadavre du prince de Condé rendait compte, d'une manifestation de virilité.
Il était mort heureux.
Et de virilité. Or, toute la thèse du crime, c'était qu'on l'avait étouffé sur son lit, puis ensuite traîné, et là il fallait un complice, on ne sait toujours pas qui, parce que le comte, ça tient pas debout, dans des conditions qu'une femme ne pouvait pas faire seule. Et surtout, étant étouffé, il n'y aurait pas eu cette manifestation de virilité qui avait été constatée. Au surplus, il y avait des traces de liquide séminal qui était sur sa cuisse et non pas dans le lit, de sorte qu'il est clair que la strangulation avait bien eu lieu par pendaison. Et à partir de là, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est celle effectivement d'une pratique sexuelle assez scabreuse, mais qui pouvait s'expliquer par son tempérament et son âge, qui aurait mal tourné. Et c'est confirmé par une lettre qui figure, confirmée sans autant de précision, mais l'hypothèse est confirmée par une lettre de la veuve du premier gentilhomme du prince de Condé, qui a écrit au duc d'Aumale, qui a transmis au duc d'Aumale une lettre que son mari lui avait remise en disant « Tu ne la remettras au duc d'Aumale après ma mort. » Il est mort, dit-il, dans un spasme de jouissance. C'est la confirmation donc de l'hypothèse. Alors on peut, à partir de là, elle a pu soit être elle-même face à cet accident contre lequel elle n'a plus rien. Il a pu aussi perdre connaissance.
Qui tombait bien quand même. Pour elle, finalement.
Il a pu aussi perdre connaissance et elle a pu ne rien faire pour le sortir de cette situation.
Voilà, c'est là qu'il y aurait une sorte de crime passif en quelque sorte. Vous êtes en train de nous dire que cette baronne de Feuchères n'est finalement pas très recommandable.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous sommes bien en votre compagnie, Franck, sur Europe 1, jusqu'à 14h, je le rappelle.
Alors, nous venons de parler de cette révolution de 1830 qui avait donné la couronne aux Orléans. Une autre révolution, en 48, va leur retirer cette couronne pour Louis-Philippe et pour les siens. Le temps est venu à leur tour de prendre le chemin de l'exil. Ils l'avaient déjà connu, l'exil, lors de la première grande révolution. Au moment où son père quitte la famille, en février 48, le duc d'Aumale n'a que 26 ans. Juste un mot à ce propos, vous savez que le jeune duc de Chartres, qui allait devenir Louis-Philippe, avait combattu dans les armées de la République. Je ferme cette parenthèse. Donc le duc d'Aumale, qui est l'héritier du prince de Condé, rejoint ses parents et le reste de la famille en Angleterre. Il vit près de Londres, à Twickenham, dans une demeure charmante, du reste, qui déjà avait servi de refuge à sa famille. Elle s'appelle Orléans House. au mal et rongé à ce moment-là par la nostalgie, même s'il refuse de le reconnaître. Il recrée là-bas une sorte d'atmosphère à la fois guerrière et orientale qui lui rappelle l'époque de ses campagnes en Algérie. Il collectionne les peintures et surtout les livres. Il faut dire qu'après les armes, sa passion va à l'histoire et qu'il peut prétendre sans peine figurer parmi les bons historiens de sa génération. Or, ce qui bientôt va donner une importance inédite aux collections du duc d'Aumale, c'est la réalisation de sa fortune financière. En effet, un obscur décret du gouvernement de Louis-Napoléon Bonaparte, qui est en train de devenir Napoléon III, s'en prend en janvier 52 aux biens meubles et immeubles détenus en France par les Orléans. Et ceci a commencé par Aumale, bien entendu, qui du fait de son héritage est de loin le plus riche des Orléans. Ceux-ci ont un an tout rond pour vendre tout ce qu'ils possèdent sur le territoire français. Le jeune duc s'arrange pour faire racheter Chantilly par des prête-noms, mais pour le reste, il n'a pas le choix. Il doit vendre. Vendre, et cela remplit d'un seul coup ses coffres de millions de francs or, à toutes les conditions possibles. 34 millions de francs or en 1854, autant dire une fortune colossale. Dès lors, le soldat, historien et collectionneur, si je puis dire, commence par racheter les collections familiales pour éviter qu'elles ne soient dispersées, puis il en vient à des domaines qui l'intéressent personnellement. Son père, l'ancien roi Louis-Philippe, vient à mourir dès 1850. Aumale acquiert notamment en succession en 1851 la célèbre bibliothèque Standish que le roi avait hérité lui-même d'un grand collectionneur anglais. 3500 volumes exceptionnels, dont 250 incunables. Il rachète aussi au prince de Salerne, son beau-père, quelques 72 tableaux majeurs, dont des Raphaël, etc., qui constituent aujourd'hui le fond de l'extraordinaire musée Condé de Chantilly. On peut dire que dès lors, une vocation de grand collectionneur est née, et pendant les deux décennies que va durer son exil, le duc d'Aumale ne cessera d'acquérir des trésors du patrimoine, notamment de très somptueux manuscrits enluminés. En 1855, il achète les très riches heures du duc de Berry, bien sûr, et puis beaucoup plus tard, il achètera le livre d'heures d'Étienne Chevalier, qui est une véritable merveille, moins connue que les très riches heures. Toute cette invraisemblable collection, c'est ce qui, aujourd'hui, constitue le fond du musée Condé, le fond de cet extraordinaire domaine de Chantilly, en pleine restauration en ce moment. Alors, on se pose toujours la question sur les origines, évidemment, de cette acquisition, sur ce legs, sur cet héritage qu'a fait le tout jeune duc d'Aumale après la mort du prince de Condé. J'ai envie de dire que ce que vient de nous raconter Pierre Cornu-Gentil aurait tendance à me rassurer. On se dit que finalement, il n'y avait rien de mal à tout ça, que le duc d'Aumale a hérité sagement son extraordinaire propriété et tous les domaines qui vont avec, parce que Dieu sait que la fortune du prince de Condé était immense. Vous savez, comme sont les mauvaises langues, on veut toujours voir le mal partout.
Un extrait sur Europe 1 de la sonate pour piano de Schubert, Franck.
Alors Pierre Cornu-Gentil, je suis bien embarrassé puisque votre ouvrage La Baronne de Feuchères, 1790-1840, La mort mystérieuse du duc de Bourbon, paru chez Perrin il y a donc 12 ans, n'est plus disponible. On a un mal fou à le trouver aujourd'hui. Il sera peut-être réédité. Souhaitons qu'il le soit rapidement.
Écoutez, écrivez dans ce sens à mon éditeur.
Je vais même lui passer un coup de fil aussitôt après l'émission si vous voulez. Et juste un mot parce qu'il reste vraiment très peu de temps. Qu'est devenue cette Baronne de Feuchères après? Est devenue la riche héritière.
Oui, effectivement, elle a été rejetée de tout le monde. Bien sûr, des ultras qui avaient témoigné contre elle tout au long de ce procès, mais également abandonnée par Louis-Philippe, qui considérait que cette amitié était désormais très encombrante, de sorte qu'elle s'est un peu retirée du monde, mais quand même avec une partie de la fortune qu'elle avait héritée d'une partie considérable, moins importante que le duc d'Aumale, mais importante de la fortune des Condé. Et elle est tombée malade, et elle a terminé... elle est morte, je crois, en 1840 à Londres, après une longue maladie et après s'être jetée dans la piété et les bons dieux.
Sic transit gloria mundi, en l'occurrence, certains diraient bien mal acquis ne profite jamais.